Bonjour, frères et sœurs, bonjour, vous qui venez peut-être pour là, les premières fois. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir, nous retrouver dans ce lieu cet après-midi pour partager une heure avec notre Seigneur Jésus-Christ, et je pense que c'est cela le plus important. J'aimerais que nous puissions faire une première lecture sans tarder dans le psaume 48. On va lire juste le verset 9, et après quoi nous irons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est un verset que nous avons partagé hier avec la jeunesse. Juste le verset 9 du psaume 48. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Et nous allons maintenant... On garde ce verset en mémoire, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 7. Nous lisons « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et nous allons au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. » Ce que ces personnes ont entendu, ils l'ont expérimenté. On pourrait donner un titre à ce message, « Nous l'avons entendu nous-mêmes ». Ce passage, nous le connaissons, on le partage régulièrement, on aime peut-être le lire. Et cet après-midi, on va s'arrêter brièvement sur l'expérience de cette femme et l'expérience des Samaritains. Et au travers de ce que eux ils ont pu expérimenter, je pense que c'est à nous que reviendra cette question en sortant de cette salle. C'est à nous que reviendra le choix à cette question. Mais qu'est-ce que moi, Je veux expérimenter avec le Seigneur. Puisque tout ce que nous pouvons partager, les chants que nous avons pu chanter, doivent nous amener à une réflexion, à un positionnement. Le premier point que j'aimerais partager, c'est que Dieu nous entend. Dieu sait ce que nous pouvons vivre, les étapes de notre existence, les difficultés, comme ce témoignage que Nicolas a raconté, de cette femme qui a entendu dès son plus jeune âge des choses qui l'ont brimée, rabaissée, c'est des choses qui marquent toute une vie. Et Dieu le voit. Et de la Genèse à l'Apocalypse, jusqu'à une certaine partie de l'Apocalypse, on pourrait dire, il y a cette même pensée, c'est que Dieu entend, voit notre souffrance, nos cris. Ce n'est pas un Dieu déconnecté. Ce n'est pas un Dieu lointain de ce que nous pouvons vivre. Ce n'est pas un Dieu qui nous regarde de loin et qui dit « Mais voilà, les dés sont lancés, je vais voir comment ils se débrouillent, excusez-moi l'expression, je vais voir comment ils vont réagir ». Ce n'est pas ça. Et quand je vous disais que dès le début du livre, du Saint-Livre, de Genèse, Exode, et j'ai noté ce texte, mais il y en a tellement d'autres, vous connaissez ces versets, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, esclave, il y a quand même ce verset qui ramène au milieu de l'oppression, au milieu de ce qu'on peut vivre, parce qu'au travers de tout cela, c'est de nous dont il est question cet après-midi. Qu'est-ce que je vis? Et ce que je vis, est-ce que ça m'exclut de l'amour de Dieu? Est-ce que ça me sort de son plan d'amour? Ou ce que je vis me pousse à rencontrer le Sauveur? Me pousse à me poser des bonnes questions, de véritables questions sur le sens de la vie, sur où est Dieu finalement dans ma vie? Parce que laissez-moi vous dire que Dieu, et je l'ai dit, et je vais peut-être le répéter régulièrement au cours de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, Dieu est avec nous, et il n'est pas déconnecté. Israël gémissait, on pourrait mettre notre prénom. En ce début d'année, pour certains, c'est les festivités, peut-être on le prend pour un nouveau départ, on le prend par rapport à des résolutions qu'on peut avoir, on peut le prendre pour beaucoup de choses, mais pour certains, peut-être c'est je commence l'année ou je continue ce que j'ai vécu en 2015, je gémis, il y a de la souffrance, il y a un mal-être, il y a des choses que le temps, que la nouvelle année ne peuvent pas effacer. Il y a des choses, malgré tous nos efforts pour avoir la bonne humeur, malgré tout ce que nous pouvons mettre en place dans notre existence, dans notre vie, les choses au fond de notre cœur ne peuvent pas changer sans Dieu. Ne peuvent pas évoluer. Et Israël gémissait encore sous la servitude, et poussait des cris. Et il y a ce détail qui cet après-midi nous intéresse. Ces cris montèrent jusqu'à Dieu. Vous voyez, peut-être pour tout le monde, pour ceux qui vous entourent, ce que vous vivez n'a pas d'importance. À l'époque, pour le peuple d'Israël, pour les Égyptiens, c'était sans importance leur souffrance. Et le monde est ainsi. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai regardé dans Google Actualité, là, vous savez, et il y a cette photo, et quand on voit ça, mais on peut exprimer ça comme la mentalité du monde, de ce couple qui se prennent en photo devant cette tour en feu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce couple, ils ont trouvé, pour se souhaiter la bonne année, ils se prennent en photo, et derrière eux, il y a un drame qui se produit. Et le monde est ainsi. Et pour le monde, votre vie, c'est ça. Mais pour Dieu, c'est pas ça. Et peut-être que pour tout le monde, vos cris, vos souffrances, ce que vous pouvez vivre, vos questionnements, vos interrogations sur pourquoi je suis sur terre, qu'est-ce qui va m'arriver durant cette année, qu'est-ce qui m'attend, peut-être pour tout le monde, pour vos proches, pour... Je sais pas, c'est sans importance, mais Dieu a toujours cette délicatesse, et c'est ce qu'a vécu cette femme, les cris montèrent jusqu'à Dieu. Dieu pourra dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit la souffrance dans notre vie, et ce qu'il désire faire. Ça n'a pas changé. Ce qu'il souhaite faire, c'est ce qu'il a fait pour cette femme, pour cette femme, dans un contexte bien précis, pour les Samaritains. Et c'est ce qu'il souhaite faire aussi pour nous, c'est qu'on puisse le rencontrer. Qu'au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, nous puissions avoir un temps, peut-être quelque chose entre parenthèses, qui nous permet de effectivement voir, comprendre ce que Jésus-Christ veut et veut nous apporter, ce qu'il nous a déjà apporté en se donnant sur le bois de la croix, parce que ce message-là ne changera jamais jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si Dieu entend, et on pourrait multiplier les versets, j'ai noté aussi ce verset-là, car c'est dans le psaume 22 au verset 25, « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Et tous ces versets qui sont là pour refléter le cœur de Dieu sont là aussi pour que nous puissions comprendre que Dieu a tout donné pour que nous puissions parvenir à la connaissance de Jésus-Christ, de celui qui est l'auteur de notre salut. Dieu entend nos cris, mais Dieu sait répondre à nos cris. Et c'est cela le plus important. Parce que on peut passer toute une vie à se poser des questions, à chercher des réponses qu'on ne pourra jamais trouver, et passer toute une vie à côté du plan de Dieu. Et vous voyez cette femme, on connaît son histoire, mais cette femme passait toute sa vie à venir puiser de l'eau dans un puits. Le puits était placé entre deux montagnes. Notre frère, dimanche dernier, l'a rappelé. La montagne de la bénédiction, la montagne de la malédiction. Mais cette femme, elle savait que sa vie n'était pas en règle. Cette femme, elle savait que la bénédiction, elle ne pouvait pas y avoir droit. Et pourtant, Jésus-Christ prend la peine de venir lui parler. Mais plus que lui parler, il prend la peine de se révéler à elle. Et c'est cela le message de l'Évangile. Et c'est cela la réponse de Dieu à l'humanité. C'est une réponse qui nous amène à comprendre que, alors qu'on méritait la malédiction, alors qu'on méritait la condamnation, c'est pas la volonté de Dieu, ou du moins le désir de Dieu, que nous puissions aboutir à la malédiction, puisqu'il a tout donné pour que nous puissions changer de montagne, changer de camp. La Bible l'exprime de cette manière, de passer des ténèbres à la lumière. Dieu peut répondre, Dieu peut agir dans notre vie, suivant ce que nous avons vécu. Dieu peut répondre à nos cris, il peut agir dans nos problèmes, dans nos difficultés. Nous avons chanté ce chant qui dit « Si la mer se déchaîne ». Mais on a tous vécu ça. Et peut-être que quelqu'un est dans cette tempête. Et Nicolas nous rappelait ce passage extraordinaire où Jésus dit « Mais passons de l'autre bord ». Et bien sûr, les disciples ont eu peur. Nous, on aurait eu peur aussi à leur place, je pense. Mais la délicatesse de Dieu, c'est de toujours accomplir sa parole. Dieu est capable de répondre à nos cris. Dieu est capable de venir dans sa délicatesse pour panser les blessures, pour venir passer comme un baume sur notre vie, là où le péché est venu pour détruire, là où nous avons peut-être volontairement mené une vie qui était opposée à Dieu parce qu'on est rebelle, parce qu'on croit comme cette femme finalement qu'en essayant, en réessayant sans Dieu, on va pouvoir s'en sortir. Mais cette femme a expérimenté que finalement, elle aurait pu multiplier les maris et on est comme ça sur tous les domaines, c'est pas ça qui a comblé son cœur. Et des personnes courent dans leur vie en multipliant les travails pour essayer de toujours gagner plus, en multipliant dans leur vie sentimentale, et on pourrait avoir tellement d'exemples, mais c'est pas ça qui comble. C'est pas ça qui comble. Ce qui change une vie, c'est lorsqu'on a compris que Dieu avait répondu à nos cris, que Dieu avait répondu à notre péché, en donnant la vie de son Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous. Il y a ce verset extraordinaire, je pense que vous le connaissez tous, « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » La voix de mes larmes. Et je pense que cette femme, elle a dû en verser des larmes. Peut-être, vous savez, on peut être là, pleurer, on peut rentrer à la maison, pleurer. Est-ce que c'est important de pleurer? C'est pas vraiment important, c'est ce que ça représente pour nous. Mais vous voyez la délicatesse de Dieu, on ne peut pas se lasser. Et on ne peut pas se lasser de ces récits évangéliques, de ces récits qui nous montrent l'amour de Dieu. Pour tout le monde, pour ses voisins, pour le village, cette femme, elle ne comptait pas. Pour tout le monde, elle ne signifiait rien. Pour tout le monde, peut-être, lorsqu'il la voyait pleurer, il dit « Ah, mais elle pleure encore, mais elle a bien cherché, tant pis pour elle ». Pour tout le monde, c'était quelque chose qui ne valait rien. Et il y a ce psaume qu'on aime répéter et lire. Je vous le dis dans la version français courant. « Ma vie décline sous l'effet des tourments. Je m'épuise en soupirs les torts que j'ai faits, que j'ai m'ont fait perdre toute énergie. Tous mes adversaires me couvrent d'insultes et mes voisins en rajoutent. Ceux qui me connaissent ont peur de moi. Ils me rencontrent dans la rue et ils me fuient. On ne me connaît plus. On m'a oublié comme un mort, comme un objet hors d'usage. D'autres versions pourront dire comme un vase brisé. » Seulement voilà, pour Dieu, il entend les voix de nos larmes. Pour les hommes, c'est un constat, mais pour Dieu, ça ne sera jamais le même constat. Quoi qu'on ait pu dire sur vous, quoi que vous ayez pu faire dans votre vie, il y a le constat de Dieu qui doit prédominer dans votre existence, si du moins vous voulez lui laisser intervenir une petite place. Et vous savez, cette femme, elle a été restaurée, parce que nous avons lu à la fin, c'est le témoignage qu'elle va rendre. Il m'a dit, Jésus-Christ, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas si nous, on serait contents que Jésus vienne et nous dise, voilà ce que tu as fait depuis les 20 dernières années, les 15 dernières années, les 10 dernières années, peut-être la semaine dernière, peut-être aujourd'hui. Mais on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre Jésus, Dieu qui se fait homme, qui se déplace pour aller voir cette femme, en lui disant, voilà ce que tu as fait, mais voilà aussi mon pardon. Voilà ta vie. Ta vie doit être placée normalement sur la montagne de la malédiction. Mais voilà, je suis venu pour te dire que ta vie peut être placée sur la montagne de la bénédiction. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas condamné. Il m'a montré ma vie misérable, et c'est là l'œuvre de la croix. Il m'a montré mon péché, puisque c'est là ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais il m'a montré son pardon, son amour. Il m'a montré que ma vie pouvait être restaurée. C'est cela le témoignage de cette femme. Il m'a montré que toutes les larmes que j'ai versées, il les a entendues. Il a vu que la vie que j'avais n'était que vide, néant, rien, brisé. Mais lui, lorsqu'il est venu, c'est pour reconstruire, c'est pour rebâtir, c'est pour guérir les cœurs brisés, c'est pour donner de l'espérance dans ce monde où tout se perd, où tout s'écroule, où rien ne va en s'améliorant, où les personnes se prennent en photo devant un immeuble en feu, où d'autres personnes au même moment sont en train de mourir. Jésus est venu, mais pas pour condamner, pas pour juger, pour sauver. Et aujourd'hui, le 3 janvier 2016, c'est un message qui n'a pas changé. La porte de la grâce est encore ouverte pour quelqu'un cet après-midi, pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin peut-être d'entendre dire une fois de plus que vous êtes pécheur, que Dieu ne peut pas vous accepter tel que vous êtes dans votre vie, que vous avez besoin peut-être de dire « Oui, Jésus m'a dit tout ce que j'ai fait ». Mais il m'a aussi parlé du pardon. Il m'a aussi offert la possibilité de me repentir. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Et laissez-moi vous dire que que ce verset, cette femme l'a expérimenté, et que bon nombre de personnes dans ce lieu l'ont expérimenté, et que vous, vous pouvez l'expérimenter. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, n'est pas condamné. On est sauvé. On voit notre nom inscrire dans le livre de vie. On a cette assurance, cette espérance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On peut repartir de ce lieu en ayant cette certitude que notre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire? Je ne sais pas. Combien de temps ça peut prendre? Combien de temps ça a pris pour cette femme? On ne sait pas son âge. On n'en sait pas beaucoup finalement. Mais 5 secondes, 10 secondes, 3 secondes, ça suffit à bouleverser, à changer une vie pour l'éternité. Et c'est ce que cette femme a vécu. Et c'est ce que nous voudrions que peut-être quelques-uns, une personne cet après-midi, vous qui êtes là, vous puissiez comprendre que Jésus vous aime, que Jésus nous aime, mais que le temps presse, que la nuit arrive bientôt. Et la Bible nous dit que lorsqu'il fera nuit, on ne pourra plus travailler. La Bible nous dit que lorsque la porte sera fermée, il sera trop tard. Et c'est pour cela que nous voulons vous présenter celui qui a tout accompli, qui est venu dans ce monde, qui a accepté d'être crucifié pour pouvoir dire tout ce qui n'allait pas dans notre vie, mais non pas pour nous rabaisser, non pas pour qu'on puisse vivre avec une culpabilité éternelle, quotidienne, vivre dans l'angoisse parce que on n'est pas comme on avait pensé ou imaginé, mais qu'on puisse saisir que si Jésus nous a dit tout ce qu'on était, c'est pour qu'on mesure la grandeur de son pardon. Pour qu'on puisse mesurer la grandeur de son amour, pour qu'on puisse comprendre cet amour immense qu'il a manifesté sur le bois de la croix. Je terminerai bientôt, parce que cette femme va faire quelque chose, et c'est là où on voit ce qu'elle a vécu, et elle va vivre, et j'aimerais juste vous lire ce texte dans Proverbes au chapitre 3, le verset 21, Proverbes 3, 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Le verset 23 nous dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Vous savez, cette femme, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si on pouvait dire que son assurance était grande dans la vie. Il y a des personnes qui sont là, qui restent craintives parce qu'elles vivent ceci, cela, et on pourrait développer beaucoup de choses. Mais cette femme va expérimenter ce que tout enfant de Dieu peut expérimenter, ce que nous pouvons encore expérimenter aujourd'hui. Tu marcheras avec assurance, et la suite, lorsque nous avons cette assurance, et la plus grande de notre assurance, c'est l'assurance de notre salut, bien sûr. C'est d'avoir la certitude que nous sommes sauvés. On pourra se coucher sans crainte, sans crainte. J'ai déjà partagé cela. Il y a mon épouse qui a croisé notre propriétaire, et ce sont des personnes avec qui vraiment on ça passe bien, on parle bien, et il y a une bonne entente. Et elle lui a demandé des nouvelles de son épouse, et il lui a dit que ça allait pas du tout, parce que ils étaient au restaurant, ils mangeaient ensemble, et à la télé ou à la radio, elle a entendu ce qui s'est passé dernièrement sur Paris, et à ce moment-là, elle s'est effondrée en pleurs. Et la dépression qu'elle avait connue il y a quelques années, est revenue comme pour ce manteau qui enveloppe une personne et qui la maintient dans une crainte, dans une angoisse perpétuelle. Et vous voyez ce que Dieu nous offre, ce salut, cette assurance du salut, ce que cette femme a expérimenté, c'est de pouvoir comprendre qu'on peut se coucher, on peut se réveiller sans crainte, dans la paix. C'est cela la vie chrétienne, c'est cela la vie avec Jésus-Christ. Et cette femme qui n'avait pas d'assurance, cette femme qui pleurait, cette femme qui était là, qui était regardée, mise de côté, cette femme qui était peut-être même pas considérée, va avoir cette assurance où elle va pouvoir rentrer dans son village pour témoigner, pour dire « voilà, voilà ce qui s'est passé dans ma vie et voilà ce que vous, vous pouvez vivre ». Et je terminerai juste avec cette pensée, ces Samaritains. Vous vous souvenez le texte que nous avons lu en introduction dans le psaume 48 ? Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Et ces Samaritains, c'est ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce que nous, nous devons vivre. C'est ce que vous, vous devez vivre. Parce que entendre parler de Jésus-Christ, entendre le message de l'Évangile, c'est quelque chose d'excellent. Entendre que Jésus nous aime, entendre que nous sommes pécheurs, mais qu'il y a une solution, qu'on peut se repentir, c'est excellent. Mais il faut le vivre. Il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que si Dieu entend nos cris, si Dieu est capable de répondre à nos cris, il y a une réponse aussi que Dieu attend de notre part. Le message de l'Évangile nous place face à un choix, nous place face à notre propre responsabilité. Est-ce que nous décidons de faire comme ces Samaritains? Nous allons dire à Jésus-Christ, reste avec nous encore quelques jours, reste là, parce que nous voulons entendre ton message. Nous voulons entendre parler de la croix, nous voulons entendre parler de paix, d'amour, nous voulons entendre toutes ces paroles que Jésus-Christ a pu dire. Veux-tu être guéri? Va en paix, ne pêche plus, sois pardonné. Et on pourrait multiplier toutes les paroles de Christ dans la parole de Dieu. Mais pour que Dieu nous parle, pour que Jésus-Christ nous parle, est-ce qu'il ne faut pas auparavant lui avoir dit, écoute, reste avec nous? Reste avec moi dans ma vie. Comment pouvez-vous entendre ce que Jésus-Christ a à vous dire si vous repartez sans lui demander de rester? Comment pouvez-vous espérer une bénédiction si vous ne prenez pas, si on ne prend pas le temps de dire au Seigneur Jésus, reste, reste avec moi, reste avec moi. Parce que laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, il est resté sur la croix. Jésus-Christ, il a gardé sa couronne d'épines. Jésus-Christ, il est resté jusqu'au bout pour que nous puissions avoir l'assurance de notre salut, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être restaurés. Son sang a coulé, et notre frère le rappelait ce matin, jusqu'à la dernière goutte, il est resté jusqu'au bout pour que nous puissions vivre et connaître cette paix, que nous puissions dire « oui, je m'endors sans crainte ». Mais pas en de l'assurance, parce que tu es avec moi, l'Éternel est mon assurance. Cette parole que ces hommes ont prononcée, c'est une parole qui doit nous faire réfléchir. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu, ce n'est plus à cause de ce que nous avons entendu, mais c'est parce que nous avons vu, nous avons cru, nous avons expérimenté, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Et d'une manière plus individuelle, est-ce qu'il est ton Sauveur cet après-midi? On pourrait prier un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour que tu manifestes. Merci parce que tu nous rappelles que tu entends nos cris. Tu lis dans nos cœurs. Tu lis dans nos larmes. Tu nous connais d'une manière parfaite et encore aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Il y a une invitation qui est donnée cet après-midi, mon Dieu. Merci parce que tu ne te lasses pas d'aimer et de pardonner. Tu ne te lasses pas de te répéter. Seigneur, oui, nous voulons expérimenter, nous ne voulons pas simplement entendre, mais nous voulons voir ce que tu es capable de faire pour nous, d'une manière personnelle, intime, pour quelqu'un cet après-midi, mon Dieu. Quelqu'un a-t-il besoin de pardon? Quelqu'un a-t-il besoin de guérison? Quelqu'un a-t-il besoin de revenir à Christ d'une manière définitive? Faites-le si c'est là ce que le Seigneur vous demande. Repentez-vous. Changez de mentalité. Renoncez au péché. Et vous allez voir que l'Éternel, le grand Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, sera votre assurance. Que cette paix que Jésus-Christ nous offre, vous pouvez l'avoir et vous endormir sans crainte et vous réveiller sans crainte. Merci mon Dieu pour tout ce que tu nous offres. Seigneur, tu ne nous devais rien. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Seigneur, veuille bénir des bien-aimés cet après-midi. Merci pour tout ce que tu veux faire et ce que tu vas accomplir. Encore, mon Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.